D'abord, la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse a demandé au gouvernement un délai de 5 mois additionnels pour déposer son rapport final. La présidente de la Commission, Régine Laurent, est avec nous. Régine, bonjour.
Oui, bonjour, bon matin, Paul.
Pourquoi ce délai? Pourquoi vous avez besoin de plus de temps?
On a besoin de plus de temps pour bien finir le travail, même si je sais que le temps compte pour les enfants, on est très conscient, mais on a eu une somme colossale d'informations, de preuves. En plus des 296 témoins qu'on a eu en audience, on a eu 225 mémoires, le bilan des 42 forums à travers la province et tout ça. Et depuis le 16 mars qu'on est dans l'analyse de toute cette masse de preuves-là pour ne rien échapper et organiser cette preuve-là, regarder toutes les thématiques, parce que chaque fois qu'on regarde, par exemple, quand on regarde la prévention, mais ça ouvre plein de portes. Ça veut dire qu'il faut aller regarder ce que les écoles nous ont dit, ce que les services de garde nous ont dit, ce que les organismes communautaires nous ont dit, comment mieux faire et comment surtout trouver une façon que tout ce monde-là travaille ensemble dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt des enfants. Fait que c'est comme ça pour chacun des secteurs, que ce soit la DPJ. On pense que c'est la loi. Oui, il y a la loi, mais il y a les familles d'accueil qui interagissent avec la DPJ, les familles qui veulent adopter, les intervenantes, les conditions d'exercice, le système judiciaire. C'est énorme l'analyse qu'on a à faire. Et c'est vraiment, ça me fait vraiment de la peine parce que je sais que c'était très attendu pour le 30 novembre, mais devant cette masse d'informations à analyser, ben je suis obligée de demander au gouvernement de nous reporter le dépôt au 30 avril 2021.
OK. Je ne veux pas vous demander là, de me dévoiler des éléments du rapport à venir, là, mais quand vous avez vu les événements à Wendake, où on a mis en lumière, puis là, je comprends qu'il faut attendre la conclusion des enquêtes, mais des signalements, semble-t-il, à la DPJ, toute la question de la santé mentale, le rôle des adultes qui pouvaient être témoins de certaines... Est-ce que vous vous êtes dit, là, c'est un genre de cas, malheureusement, qu'on a vu dans le passé et qui semble s'être reproduit?
Bien, je me suis dit plusieurs choses. Un, ça presse qu'on change les choses. Et, par exemple, quand vous parlez de santé mentale, l'objectif de l'ensemble des commissaires, c'est pas qu'il y ait 118 000 puis 130 000 signalements à la DPJ, parce qu'entre nous, on se dit la DPJ, c'est les soins intensifs. Ce qu'il faut faire, c'est de donner les services en amont. C'est-à-dire que les parents qui ont besoin de services et que des enfants qui ont besoin de services, bien, que ces services-là soient là au moment où ils en ont besoin, pour le temps qu'ils en ont besoin. On peut pas demander à quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale d'attendre pendant des mois ou une année. On peut pas demander à un enfant, par exemple, qui a besoin d'un psychologue, de lui dire, ben attends ton tour, ça viendra. Parce qu'on sait que les dégâts sont difficiles après ça à réparer. Donc, toute notre lunette d'approche, les commissaires, c'est vraiment de tout faire réellement dans l'intérêt de l'enfant.
Mais je vais vous dire, moi j'ai entendu ça souvent, là, l'enfant est au cœur de nos priorités, mais en même temps, je me dis concrètement, là, des questions bien simples, comment je fais pour amener des gens à travailler, par exemple, pour la DPJ? Comment je fais pour les garder une fois qu'ils sont à l'intérieur, pour pas qu'ils soient en burn-out, tannés, puis qu'ils décrochent? Oui. Comment je fais pour assurer que quand un juge donne une ordonnance, le suivi se fait dans le réseau de la santé? C'est pas mal ça, les questions de base, là.
Oui, ça en fait partie des questions de base, puis on pourrait en ajouter bien d'autres. Oui, mais quand on parle des intervenantes, c'est qu'il faut regarder, et plusieurs sont venus nous en parler, il faut regarder, est-ce que la formation qu'elles ont, elle est convenable? Plusieurs nous ont dit, moi j'arrive là, je suis une toute jeune, et il manque criant de soutien clinique et d'accompagnement. Parce que souvent, ce qu'on a pu constater, c'est que dans leurs études, ben c'est pas évident que la connaissance de l'application de la loi sur la protection de la jeunesse, que cette connaissance-là, elle n'est pas approfondie. Et même si elle l'était, il faut un accompagnement clinique pour les soutenir dans les premiers temps. Parce que on a affaire à des familles qui sont en crise. On a affaire à des enfants qui ont un besoin immédiat de protection, par exemple. Mais comment est-ce qu'on fait ça de façon correcte et qu'on puisse accompagner? beaucoup nous ont dit aussi qu'elles ont beaucoup trop de familles ou d'enfants à s'occuper. Parce qu'elles nous disent, ben normalement, je devrais y aller rencontrer cet enfant-là aux 2 semaines ou rencontrer la famille aux 2 semaines, mais je suis pas capable parce que j'ai beaucoup trop de cas. Fait que je fais un téléphone. On s'entend, entre vous et moi, qu'un téléphone, c'est pas la même chose que d'aller dans la maison, de prendre le temps, de prendre un café. Mais les familles d'accueil vivent la même chose. Elles nous disent, ben on a un besoin parce que avant, on avait une intervenante qui était notre interlocutrice à cette famille d'accueil-là. Maintenant, c'est plus ça. J'en ai 3, 4 selon le nombre d'enfants que j'ai en accueil. Alors, il y a tout ça qu'il faut regarder quand on parle des intervenantes. Alors, c'est pour ça que je vous disais, chaque secteur qu'on a ouvert où les gens sont venus nous en parler, ben ça ouvre d'autres portes et il faut aller creuser à chaque fois pour être sûr que notre commande d'action va vraiment faire une différence. Il y a un manque, je me souviens encore à Sept-Îles, ben il n'y a pas de pédopsychiatre sur place. Mais comment, au jour d'aujourd'hui, on l'a vécu avec la pandémie, comment se fait qu'on n'est pas capable de mettre en place, par exemple, des choses qui vont se faire en visioconférence? Donc, tout ça pour dire que c'est les services qu'il faut mettre en place et que tous ces secteurs-là se parlent, parce que tout le monde est de bonne foi, mais si ça se parle pas, c'est sûr qu'on va en échapper des enfants, malheureusement.
Évidemment, il faut que je te parle, Régine, de la situation à l'Université d'Ottawa. Tu penses quoi de tout ça?
Ça me fait de la peine, ça me dérange. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent être très, très, très sensibles. Mais je défendrai toujours la liberté d'expression et la liberté de dialogue dans une université ou un collège. Je défendrai toujours ce lieu-là qui est un lieu d'apprentissage pour moi. Donc, des fois, ça peut être dérangeant et il faut être capable de l'accepter. Et si on bannit tous les mots qui nous dérangent, ben il n'y a pas d'apprentissage non plus. Alors, moi, je trouve qu'un lieu comme l'université, où ça a été fait, selon les informations, de façon correcte, dans un objectif pédagogique, j'ai beaucoup de misère avec ça, puis je ne suis pas certaine que ça sert bien la cause.
Est-ce que ça t'inquiète, parce qu'on n'est pas juste devant un débat là, de gens qui ont des points de vue contraires, là. Le niveau de la violence verbale est assez incroyable, les menaces contre les professeurs, les mots rééducation qui apparaissent dans le décor, on n'est pas juste dans un point de vue différent, là.
C'est-à-dire, pour une personne de mon âge qui a lu un petit peu, quand on parle de rééducation, ça fait froid dans le dos. On sait à quoi ça fait référence. Maintenant, tout ce qui est, moi, quand j'ai entendu que les coordonnées personnelles de cette prof a été publiées, qu'il y a eu des menaces, je ne peux que condamner ça. C'est pas comme ça qu'on va établir des ponts, qu'on va établir un dialogue par la menace et en mettant la sécurité d'une personne en danger, là. Ça, je peux pas l'accepter, là.
Régine, oui, vas-y.
Non, ce que j'allais dire, c'est que il y a autre chose. Par exemple, dans la commission, il y a des gens qui sont venus nous dire, ben voici, il y a une surreprésentation des enfants noirs, par exemple, à la DPJ. Alors, il faut travailler. Et on a eu des pistes de solutions pour mieux faire cette prise en charge. Alors, moi, je suis plus là-dedans là, que dans la violence. Ça, c'est clair que je condamne ça.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Régine Laurent, qui est la présidente de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse.